toujours Radio France Internationale que vous écoutez alors qu'il est 20h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Philippe Le Caplin.
RFI Soir, la grande session d'information du soir, bien évidemment, sur Radio France Internationale, avec tout de suite Le Grand Journal. Le Grand Journal, c'est avec vous, Christophe Paget, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, Donald Trump qui veut encore augmenter les droits de douane.
Oui, plus 50% pour l'Union Européenne et, c'est une première, plus 25% pour une entreprise, Apple, si elle ne construit pas ses téléphones aux États-Unis. Justine Fontaine nous en dira plus au début de ce journal. Pendant ce temps-là, Harvard porte plainte. Hier, l'administration Trump avait interdit à la prestigieuse université d'accueillir des étudiants étrangers. Harvard dénonce un dernier acte de représailles contre son droit au premier amendement qui protège la liberté d'expression. Dans ce journal, nous entendrons la réaction d'un professeur d'Harvard, le français Vincent Ponce, prix du meilleur économiste de France en 2023. Ce sera le dossier de ce 20h. Nous entendrons aussi le grand photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, dont on a appris le décès en fin d'après-midi à l'âge de 81 ans. Un grand témoin de la condition humaine et de l'état de la planète, rappelle l'Académie des Beaux-Arts française.
Direction Cannes ensuite, puisque demain ce sera le palmarès du 78e festival de cinéma.
Oui, pour nous résumer ces 10 jours de projection, nous appellerons une de nos envoyées spéciales sur la croisette, Isabelle Chenu.
La calmie n'aura donc duré que 2 semaines finalement. Donald Trump menace à nouveau d'augmenter des droits de douane.
Je recommande d'imposer 50% de droits de douane sur l'Union européenne, affirme le président américain. Ce qui a immédiatement tiré les bourses européennes vers le bas, notamment les valeurs de luxe et de l'automobile. Wall Street aussi a ouvert en baisse. Donald Trump met une fois de plus la pression sur l'UE, son premier partenaire commercial. Justine Fontaine.
Comme à son habitude, Donald Trump a écrit de bon matin plusieurs messages tonitruants sur son réseau social. À 7h43, heure de Washington, il répète ainsi que l'Union européenne aurait été créée, selon lui, pour prendre l'avantage sur Washington en matière de commerce, en majuscule, et que les négociations en ce moment avec Bruxelles ne vont nulle part. Résultat, il brandit cette menace de 50% de droits de douane sur les produits européens, alors qu'il avait décrété début avril 20% de droits de douane, ramené temporairement le temps de négocier à 10% jusqu'à début juillet en théorie. Les négociations ne sont pas publiques, mais la Maison-Blanche demande aux pays européens de s'engager à acheter plus de produits américains, notamment du gaz, et à réduire les barrières à l'entrée en Europe de produits fabriqués aux États-Unis. Bruxelles, de son côté, insiste, il faut un accord équilibré. Une position qui ne plaît donc pas à Donald Trump. Après l'accord obtenu il y a une dizaine de jours avec la Chine, il joue donc la carte de la pression maximale pour tenter de forcer la main de ses alliés européens.
Et à noter que pour la première fois, le président américain s'en prend aussi à une entreprise, Apple, entreprise pourtant américaine, qu'il menace d'au moins 25% de surtaxe si elle ne fabrique pas ses iPhones aux États-Unis.
Les États-Unis, justement, on y reste, puisque la prestigieuse université Harvard contre-attaque ce soir.
Oui, hier, l'administration Trump lui avait interdit d'accueillir des étudiants étrangers, ce qui d'une part la prive d'un important moyen de rayonner à l'étranger, et puis cela concerne quand même 6800 étudiants, plus du quart de ses effectifs, et Harvard porte plainte. L'université dénonce un dernier acte de représailles contre son droit au premier amendement qui protège la liberté d'expression. Rappelons que l'administration Trump reproche à Harvard de favoriser la violence, l'antisémitisme et de se coordonner avec le Parti communiste chinois sur son campus. En tout cas, cette annonce du gouvernement a sonné le campus, aussi bien les étudiants que les professeurs. Parmi eux, le français Vincent Ponce, prix du meilleur économiste de France en 2023 et enseignant à la Harvard Kennedy School. Il répond aux questions de Vincent Souriau, c'est le dossier de ce 20h.
Bonjour Vincent Ponce.
Bonjour.
Vous enseignez l'économie à Harvard, y compris à de très nombreux étudiants étrangers. Comment avez-vous vécu cette décision de l'administration Trump ?
Avec stupeur et avec colère. Je travaille avec beaucoup d'étudiants étrangers qui sont directement affectés et dont l'avenir est aujourd'hui incertain puisqu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir rester sur le territoire américain. C'est la même chose pour les étudiants qui s'apprêtaient à commencer leur scolarité en septembre. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir effectivement débuter leurs études à Harvard. Et donc, ces étudiants et leurs familles sont aujourd'hui très inquiètes.
On vient d'apprendre qu'Harvard va la contester en justice, cette décision. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier recours que l'université engage contre le gouvernement américain. Est-ce que vous pensez, vous aussi, comme la présidence de l'université, qu'il faut se battre ?
Absolument. Il faut se battre d'abord parce que ces décisions sont illégales. Et puis, il faut se battre parce que ce qui est en jeu, c'est non seulement la recherche et l'enseignement à Harvard, mais c'est aussi la liberté de parole, la liberté académique et donc l'enjeu dépasse très largement Harvard, puisque c'est aujourd'hui évident que l'administration cible Harvard pour envoyer un signal très fort aux autres universités et pour s'assurer que les autres universités restent dans le rang.
Alors qu'on parle d'un établissement privé, hein.
Oui, mais c'est un établissement privé qui, comme d'autres universités, est perçu comme un lieu de contre-pouvoir par l'administration républicaine. Et donc, elle s'y attaque de la même façon qu'elle s'attaque à des cabinets d'avocats et en fait à tout ce qui s'oppose à la dérive autoritaire que Donald Trump a débutée.
Et les motifs que l'administration met en avant, donc l'antisémitisme supposé, l'organisation de manifestations clandestines, la proximité avec le Parti communiste chinois, hein, là je cite le communiqué du ministère américain de l'Intérieur, est-ce que tout ça vous semble crédible ?
Alors, c'est des prétextes. Le fait qu'il s'agisse de prétextes ne signifie pas qu'il n'y a aucun problème. Après les attentats terroristes qui ont eu lieu il y a un peu plus d'un an maintenant, il y a eu des tensions sur les campus. Il y a toujours des tensions sur les campus au moment d'événements sociétaux importants. Il y a eu des discriminations qui ont ciblé des étudiants juifs et israéliens, qui ont aussi ciblé des étudiants palestiniens et pro-palestiniens. C'est des tensions et des discriminations qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et donc, il y a eu un travail en profondeur engagé par l'université pour y remédier. Mais la sanction aujourd'hui imposée par Trump est complètement disproportionnée par rapport aux événements qui sont cités comme prétexte.
Le français Vincent Ponce, enseignant à la Harvard Kennedy School, joint par Vincent Souriau.
Pour ce qui est de la situation à Gaza, les Palestiniens subissent aujourd'hui la période peut-être la plus cruelle de ce cruel conflit.
Et c'est ce qu'a dit aujourd'hui Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui décrit une population affamée et constamment déplacée. Le Conseil de l'Europe est lui aussi revenu sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, des actes qui, je cite, vont dans le sens d'un nettoyage ethnique et d'un génocide. Et devant cette situation dans la bande de Gaza, une vingtaine de sociétés de journalistes françaises, dont celle de RFI et de France 24, demandent aujourd'hui aux autorités françaises l'évacuation des collaborateurs des médias français, de ceux qui nous aident chaque jour à vous informer, car ils sont en danger de mort à cause des frappes israéliennes.
Venons-en à la fin des pourparlers à Rome entre l'Iran et les États-Unis concernant le nucléaire.
Oman, qui assure la médiation, parle de quelques progrès mais non concluants pour ce cinquième cycle de négociations sur le nucléaire iranien. Siavash Ghazi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Téhéran. Les négociations semblent buter sur la question de l'enrichissement de l'uranium.
Absolument. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que les négociations étaient trop compliquées pour qu'elles aboutissent en deux ou trois réunions. Il a toutefois ajouté que les discussions de ce vendredi avaient été sérieuses et que les États-Unis avaient une meilleure vision de la position de Téhéran. Une nouvelle rencontre doit avoir lieu, mais pour l'instant, aucune date n'a été fixée. Ces derniers jours, la question de l'enrichissement d'uranium a été au centre d'un bras de fer entre Téhéran et Washington. Plusieurs responsables américains, notamment le secrétaire d'État américain Marco Rubio, ont en effet affirmé que l'Iran devait renoncer à son programme d'enrichissement. De leur côté, les responsables iraniens ont répliqué en affirmant qu'il n'était pas question d'abandonner ce programme. Abbas Araghchi a même affirmé hier qu'il n'y aura pas d'accord avec les Américains sans qu'ils reconnaissent ce droit de l'Iran. Les pays occidentaux accusent Téhéran de vouloir utiliser ce programme nucléaire pour la fabrication de l'arme atomique, ce que Téhéran dément. Aucun détail n'a filtré pour l'instant sur cette cinquième série de discussions, mais la question de l'enrichissement est bien au centre de ce bras de fer entre Téhéran et Washington.
Merci Siavash Ghazi. C'était une exigence de Washington avant la levée des sanctions contre la Syrie. Damas a imposé des restrictions au groupe palestinien proche de l'Iran et de l'ancien président Bachar al-Assad. La plupart des chefs des factions palestiniennes soutenues par l'Iran auraient d'ailleurs quitté le pays. C'est ce qu'avait demandé la semaine dernière Donald Trump au président intérimaire syrien.
Il est pile 18h09 en temps universel. Ce début d'un échange record de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine.
Au total, 1000 prisonniers doivent être échangés de part et d'autre. Pour le moment, les deux camps ont annoncé avoir récupéré plusieurs centaines de personnes chacun, militaires et civils. Un échange commenté par le président américain sur son réseau Truth Social. Félicitations, cela pourrait conduire à quelque chose d'énorme. À Moscou, la correspondance d'Anissel Jabri.
390 citoyens russes ont été libérés selon les chiffres officiels rendus publics, dont 270 soldats et 120 civils, certains étant des habitants de la région de Koursk suite à l'attaque éclair lancée par l'Ukraine en août dernier. Cet échange en cours est le plus important depuis le début du conflit. Il est présenté comme le résultat concret des pourparlers chaotiques d'Istanbul. C'est en tout cas loin d'être une première. Jusqu'ici, les deux parties ont toujours procédé à des échanges. Le procédé secret s'est toujours tenu entre les deux armées. Anissel Jabri, Moscou, RFI.
Et puis annonce ce soir de la diplomatie russe, Moscou va transmettre à Kiev un document exposant ses conditions pour mettre fin à la guerre une fois que l'échange de prisonniers sera terminé. En Turquie, 45 personnes ont été placées en garde à vue ce matin, nouvel épisode de la vaste opération lancée par le pouvoir contre la municipalité d'Istanbul et surtout son maire, Ekrem İmamoğlu, le principal rival politique du président Recep Tayyip Erdogan. Les explications à Istanbul de Céline Pierre Magnani.
45 personnes ont été placées en garde à vue ce matin, d'après l'agence gouvernementale Anadolu. Il s'agit d'un nouveau rebondissement dans l'opération lancée contre la mairie d'Istanbul depuis le 19 mars. Les suspects sont accusés d'avoir pris part à un réseau de corruption orchestré par le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, lui-même emprisonné depuis le 23 mars. Chaque coup de filet ratisse un peu plus large dans l'entourage du maire. La secrétaire particulière de l'édile ainsi que deux responsables d'entreprises municipales figurent aujourd'hui sur la liste. Les accusations contre İmamoğlu reposent essentiellement sur le témoignage de personnes sous anonymat et ce dernier conteste fermement les charges retenues contre lui. Son arrestation est le dernier volet d'une longue persécution administrative et des centaines de milliers de Turcs étaient descendus dans les rues pour protester. Les opposants de Recep Tayyip Erdogan l'accusent d'utiliser la justice pour éliminer son adversaire le plus sérieux. Lors d'un discours devant son groupe parlementaire le 15 mai, le président avait lancé l'idée d'une réforme des prérogatives des mairies qui pourrait réduire la marge de manœuvre des collectivités territoriales. Le parquet d'Istanbul a également interdit la diffusion de photos et de vidéos d'Ekrem İmamoğlu dans les transports en commun à Istanbul. Céline Pierre Magnani, Istanbul, RFI.
Attaque au couteau en Allemagne, dans la gare centrale de Hambourg, dans le nord, 12 personnes ont été blessées, plusieurs se trouvent dans un état critique, un suspect a été arrêté.
L'actualité en France.
Avec un des 55 hommes interpellés cette semaine dans le cadre d'une opération contre un réseau pédocriminel qui s'est défenestré ce matin. Ça s'est passé près de Strasbourg dans l'Est. L'homme qui a été hospitalisé et qui est actuellement dans le coma devait comparaître cet après-midi devant le tribunal de Strasbourg pour détention et diffusion d'images pédopornographiques.
Les taxis toujours en colère qui bloquent les accès à des gares à Paris.
Taxis qui protestent depuis le début de la semaine contre la concurrence des VTC et la nouvelle convention qui régit le transport de malades. Ils ont bloqué aujourd'hui l'accès à la gare de Lyon et à la gare du Nord.
Venons-en à la mort du grand photographe franco-brésilien qui était Sebastião Salgado. Il vient de mourir à l'âge de 81 ans.
Oui, on l'a appris en fin d'après-midi. Sebastião Salgado, connu pour ses grandes photos noires et blancs de conflits ou de forêts amazoniennes. C'est l'Académie des Beaux-Arts françaises dont il était membre qui annonce le décès de celui qu'il décrit comme un grand témoin de la condition humaine et de l'état de la planète. Du Rwanda au Guatemala en passant par l'Indonésie et le Bangladesh. Arim Lipold l'avait rencontré à Deauville, dans l'ouest de la France, en mars dernier, lors d'une exposition qui lui était consacrée et qui est toujours en cours.
Vous savez, tout dans cette vie passe à une vitesse incroyable. Je ne vis pas le temps passé. J'ai fait énormément de choses, j'ai voyagé, j'ai réalisé des images. Et ce matin, en arrivant ici, j'ai senti un résumé de ma vie. C'était un résumé de ma vie de photographe qui était là. Et donc, ça m'a donné une émotion énorme.
Sebastião Salgado et le président brésilien Lula a rendu hommage ce soir au photographe Salgado, l'un des meilleurs du monde.
Et puis à Cannes, on est à la veille de la publication du palmarès, de la Palme d'Or, entre autres, au Festival du cinéma.
Oui, deux derniers films ont été présentés en compétition aujourd'hui. Jeune mère, des réalisateurs belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui ont déjà reçu deux Palmes d'Or. Et puis Mastermind, de l'américain Kelly Reichardt. Et on retrouve tout de suite une de nos envoyées spéciales sur la croisette, Isabelle Chenu. Isabelle, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Alors avant les récompenses demain, quel bilan dresser de ces 10 jours de projection intensive ?
Bien écoutez, l'édition 2025 aura été cinéphile et politique. L'hommage le plus évident au 7e art, c'est Nouvelle Vague de l'américain Richard Linklater qui ressuscite avec beaucoup d'humour en noir et blanc le tournage d'une pièce maîtresse du cinéma à bout de souffle de Jean-Luc Godard. On a aussi pu voir deux très beaux films de famille signés de l'espagnol Carla Simon et du norvégien Joachim Trier qui montrent comment le cinéma peut servir de réparation au trauma intergénérationnel. L'autre axe du festival, ce sont des portraits de simples citoyens brisés par des régimes autoritaires ou totalitaires. Sergueï Losnitsa suit un jeune procureur intègre broyé par les purges staliniennes des années 30. L'Iranien Jafar Panahi, qui a tourné son film dans la clandestinité, questionne la vengeance. Faut-il se mettre au niveau de ses tortionnaires ? Le Français Dominique Moll enquête sur les violences policières lors des manifestations de Gilets jaunes, tandis que le Suédois Tarik rhétorique salée dresse une satire sans concession du régime égyptien du président Al-Sisi. Mais le film coup de poing du festival est sans conteste Sirat de l'espagnol Oliver Lax, un univers à la Mad Max très remarqué.
Merci Isabelle Chenu en direct de Cannes.
Oui, Isabelle Chenu qu'on retrouvera demain d'ailleurs à cette même heure pour une édition spéciale pour les premiers commentaires après l'annonce du palmarès.
La suite de RFI Soir, c'est avec Philippe Le Caplain.
Absolument, on vous retrouve à 22h hein, pour de nouvelles informations. Christophe Paget, tout de suite, ce sont les sports. Hein. Et tout d'abord du football, c'est le seul grand championnat européen qui aura gardé son suspense intact jusqu'au bout. Christophe Di Remzian, la Serie A italienne, va livrer son verdict ce soir pour les titres de champion.
À l'occasion du début de la 38e et dernière journée, seulement deux matchs au programme, mais les deux plus importants, le leader Naples reçoit Cagliari, tandis que son dauphin, l'Inter Milan, finaliste de la Ligue des Champions le week-end prochain, est en déplacement à Côme. Les Napolitains n'ont qu'un petit point d'avance, gagné à domicile leur permettrait d'empocher le quatrième titre de leur histoire. En principe, ils ont toutes les cartes en main, donc, mais cette saison particulière indécise n'est pas à l'abri d'un énième retournement de situation et Antonio Conte, l'entraîneur du Napoli, privé de banc d'ailleurs ce soir pour cause de suspension, a connu suffisamment de désillusions dans le passé pour ne pas s'emballer.
Je peux être un spécialiste des victoires mais je suis aussi et surtout spécialiste des défaites. Ma carrière parle d'elle-même. Si l'on regarde ce que j'ai perdu en tant que joueur, ça donne trois finales en Ligue des Champions, une finale de Coupe du Monde, une finale de Championnat d'Europe, une finale de Coupe de l'UEFA, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Ça a forgé une carapace très dure en moi, et parfois même, ça me rend méchant. Et bien sûr, ça me déçoit de ne pas être sur le banc cette fois-ci, parce qu'au bout d'un championnat comme celui-ci, on voudrait être là, à côté de ces gars, devant ses supporters, pour essayer de quand même guider l'équipe. Mais j'ai une grande confiance envers le staff, les fans, et dans l'ambiance qui sera créée. En fait, j'aurai deux cœurs, un sur le banc et un en tribune.
Antonio Conte, quelques heures avant ce duel de capitale Naples-Cagliari, tout à l'heure, 18h45, temps universel, même heure de coup d'envoi pour Côme Inter Milan.
Le rugby avec le début à Cardiff ce week-end, du week-end final des compétitions internationales de clubs.
Avant la finale de la Coupe des Champions, demain entre Bordeaux-Bègles et Northampton, un autre club français, Lyon, dispute ce soir la finale du Challenge européen, également contre un adversaire anglais, Bath, leader de son championnat. Le Loup a remporté cette compétition en 2022.
Et puis en tennis, nous sommes à 48 heures hein, du début de Roland-Garros à Paris. La Française Caroline Garcia annonce que sa retraite est proche.
Cher tennis, il est temps de te dire au revoir. Voilà comment l'ex numéro 4 mondial a démarré son message sur les réseaux sociaux. La Lyonnaise de 31 ans, victorieuse de 11 titres en simple et de la Fed Cup en 2019, n'a pas dit exactement à quelle date précise elle rangerait définitivement ses raquettes. Mais une chose est sûre, ce Roland-Garros sera donc son dernier. Sa décision a surpris par le choix du moment, mais peut-être moins pour sa raison, la lassitude et le mal-être sur le circuit qu'elle avait déjà exprimé il y a quelques mois. L'an passé, elle avait d'ailleurs mis un terme à sa saison dès l'automne. Sa future retraite n'a pas manqué d'ailleurs de faire réagir aujourd'hui, porte d'Auteuil, en ce jour réservé aux interviews de joueurs et de joueuses, et notamment chez la jeune génération tricolore, exemple avec Elsa Jacquemot, 21 ans, 139e mondial et invitée dans le tableau final.
C'est dingue parce que Caro est lyonnaise, je suis lyonnaise, Caro a 10 ans exactement de plus que moi, donc c'est vrai que c'est ça m'a un peu surprise de voir que d'un côté c'est normal mais qu'elle prend sa retraite comme ça. Donc Caro c'est une joueuse juste, je suis admirative par son parcours, c'est une super gentille nana, enfin elle est super cool, super gentille, elle est adorable. Caro c'est une athlète de dingue, elle a rapporté beaucoup de choses à la France, c'est quelqu'un que je suis admirative, elle a une carrière de dingue, c'est quelqu'un qui m'inspire. J'aurais kiffé qu'elle continue un peu plus longtemps parce que c'est vrai que moi je vais un peu dans le pro maintenant. Mais je garde que des souvenirs positifs sur elle.
Elsa Jacquemot avec Eric Mamrut, enfin une quatrième victoire d'étape pour Mats Pedersen sur le Tour d'Italie. Le Danois a remporté au sprint la 13e étape à Vicence devant le Belge Wout van Aert. Pas de changement général. Le Mexicain Isaac Del Toro reste maillot.
Mais restons sur le tennis puisque c'est l'ouverture et le commencement de Roland-Garros. Et c'est la raison pour laquelle le magazine L'Équipe consacre son numéro entièrement à cet événement avec en couverture Iga Świątek. Antoine Bourlon, vous êtes le rédacteur en chef du magazine L'Équipe. Alors la Polonaise qui a gagné les trois dernières éditions, qui a moins la forme, cette jeune femme introvertie vous a parlé.
Oui, alors Iga Świątek, ça fait un petit moment qu'on essaie de lui parler à l'équipe parce qu'elle surdomine Roland-Garros depuis des années. Les trois derniers titres, comme vous l'avez dit, et puis quatre titres de façon générale. Elle a gagné très très tôt Roland-Garros. Voilà, surdomination sur la terre battue, au point même qu'on avait surnommé Roland-Garros Poland-Garros, donc en référence à son pays. Et Iga Świątek, depuis un petit moment, ça va un peu moins fort. Déjà l'année dernière à Roland-Garros, certes, elle avait gagné, mais ça avait été un peu plus compliqué que d'habitude. Et depuis, elle traîne un peu son spleen. On a du mal à comprendre parfois pourquoi. Elle est retombée au cinquième rang mondial et puis surtout il y a eu un épisode très fort, c'est son contrôle antidopage positif. Donc après elle a réussi à prouver que c'était une contamination via des cachets de mélatonine qu'elle prenait pour dormir, qui étaient totalement légaux, et qu'un des échantillons avait été contaminé à une autre substance, la substance à laquelle elle avait été contrôlée positive. Donc elle a été blanchie par l'Agence mondiale antidopage, et donc elle explique que ce combat-là l'a un peu miné. Et même son niveau de jeu a un peu chuté, elle a changé de staff, voilà. Et donc tout ce qu'on voulait raconter aussi avec Iga Świątek, c'est son parcours, parce que c'est une fille qui est assez mystérieuse en fait pour les fans de tennis, enfin les fans de sport tout court. Elle a toujours sa casquette vissée sur le crâne quand elle joue. Elle parle pas beaucoup, elle fait pas trop ressentir ses émotions, contrairement à beaucoup d'autres championnes. C'est un peu une anti-Serena Williams, pour caricaturer un peu dans le comportement. Donc nous, on a voulu comprendre tout ça, et c'est une fille qui se révèle quand même tout de même passionnante, qui est dingue de lecture, qui est une fille complètement différente dans la vie quotidienne qu'elle ne l'est dans le monde du tennis. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a essayé de chercher à comprendre, et c'est une rencontre assez différente de celle qu'on fait d'habitude, parce qu'on va souvent, nous, journalistes, vers des sportifs extravertis. C'est plus facile, entre guillemets, et puis on a plus envie d'aller vers eux. Là, c'est complètement différent et c'est vraiment passionnant de la rencontrer.
Cela dit, vous l'avez photographiée sans sa casquette et parfois avec un grand sourire. Pour autant, est-ce qu'elle a le moral dans les chaussettes? Elle dit, il m'a fallu du temps pour accepter qu'il allait être difficile de reprendre la place de numéro 1. C'est-à-dire, pour elle, c'est réglé, elle ne redeviendra pas
Si, pour elle dit qu'elle veut redevenir numéro 1 mondial. C'est pas une question pour elle dans son esprit. C'est juste qu'après avoir bataillé pendant des années pour être numéro 1 mondial, puis après le rester, parce qu'il y avait quand même une forte concurrence avec l'actuel justement numéro 1 mondial, Arina Sabalenka. Voilà, et quand elle a perdu cette place de numéro 1 qu'elle avait un temps regagné, ensuite elle a un peu chuté, elle s'est dit ça va être très compliqué. Ça a été un vrai coup au moral, parce que au-delà de, c'est une fille très timide mais alors ultra compétitrice, donc voilà, il y a beaucoup de nuances dans sa personnalité. C'est ça qui est là en fait quelqu'un de très intéressant.
Autre rencontre, c'est avec un joueur tchèque, star du moment, à 19 ans, il vient de gagner le Master 1000 de Miami. Son frère est autiste et cela occupe une grande place dans la vie de
Jakub Mencik, donc voilà, joueur tchèque, la République tchèque, un énorme pays de tennis. Voilà, ça c'est, on le présente plus, notamment chez les filles depuis quelques années, depuis des décennies, il y a toujours des très très grandes joueuses. Donc franchement, là-dessus, c'est pas une surprise qu'un joueur tchèque arrive à émerger, surtout du petit bled d'où il vient, donc Prostějov, qui est vraiment l'endroit tennis à plus de République tchèque. Et donc Jakub Mencik, ce qui est fascinant avec lui, c'est vraiment son parcours et le fait qu'il vienne d'un tout petit endroit et qui s'est construit vraiment différemment que les autres joueurs. Donc il fait partie de cette génération avec le Brésilien João Fonseca ou même Carlos Alcaraz, qu'on peut rajouter là-dedans, à être très fort, très jeune. Donc son idole, c'est Novak Djokovic, qu'il a battu en finale à Miami. Et oui, comme vous le disiez, Jakub Mencik, son frère est autiste, et donc c'est en partie ça qu'il nous raconte, c'est la relation qu'il a avec son frère et qui le fait énormément relativiser aussi sa place sur le court. Ce qui est intéressant avec Mencik, c'est que il a compris assez tôt l'importance de la psychologie dans son jeu. Alors il a que 19 ans, mais ça fait déjà quelques années qu'il travaille avec un préparateur mental, et il explique en fait que le fait d'avoir un frère autiste, au-delà d'être un lien de différent dans la vie quotidienne, ça lui permet de beaucoup relativiser la place que le tennis occupe dans sa vie, la pression qu'il peut se mettre aussi dans les tournois. Voilà, c'est un peu cliché, mais il dit en fait, moi dans ma vie, il y a plus important que jouer au tennis. Donc voilà, c'est beaucoup, plein de choses qu'il nous raconte à 19 ans, beaucoup de maturité, et un joueur qui va marquer assez vite les esprits, on pense.
Et dans ce numéro de l'équipe entièrement consacré au tennis, de la technique, une technique de jeu particulière, c'est le moon balls, la balle en cloche.
Ouais, on a appelé ça le coup qui rend fou. Donc certains se souviendront notamment de Michael Chang à Roland Garros, qui hyperclus de crampes se met à jouer des balles en cloche pour gêner son adversaire, et notamment Ivan Lendl. Ce qui est dingue avec la moon ball, c'est que c'est à la fois quelque chose du monde professionnel, donc quand un joueur est fatigué ou qu'un joueur qui a moins de puissance essaye de sortir son adversaire du match. Des fois, chez les filles, ça permet de jouer des revers très très haut, au-dessus de l'épaule, de faire jouer à l'adversaire un coup très compliqué à jouer. Donc voilà, c'est vraiment une stratégie chez les professionnels, mais c'est aussi chez les amateurs un coup qui est pénible, parce que certains joueurs amateurs ne jouent que comme ça et ils sont vraiment fatigants pour leurs adversaires. Et donc on raconte un peu cette saga là.
Et puis le portfolio qui permet de découvrir des photos vintage du tournoi de Roland Garros, ça ramène à quand certains et certaines d'entre eux, de ces joueurs vedettes, étaient tout simplement des juniors, des jeunes.
Ouais, bien sûr. Bah, à l'équipe, on a une chance énorme, c'est d'avoir plus de 10 millions d'archives, de photos d'archives. Et des fois, quand on se replonge la tête dedans, c'est quelque chose qui est toujours très surprenant. Et là, on s'est dit, bah, pourquoi pas aller voir un peu ce qui se faisait chez les juniors. Et en tapant les noms de plusieurs grands champions, je pense à Martin Hingis, qui a 13 ans, 14 ans, signe déjà des autographes auprès des fans. Amélie Mauresmo, qui joue avec des lunettes de soleil. Yannick Noah, qui a un look incroyable à l'époque. Il y a des photos d'Henri Lecomte, qui se balade avec un caddie, voilà. Donc il y a plein de photos à découvrir des gens très connus qui étaient chez les juniors.
Merci Antoine Bourlon, et c'est donc à lire dans le magazine L'Équipe.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
RFI Soir qui vous emmène maintenant au Mexique. Plus de 120 000 personnes y sont portées disparues. Récemment, la découverte d'un camp d'extermination tenu par un cartel a remis le sujet des disparitions forcées en pleine actualité. Les familles accusent l'État d'inaction et sortent chercher elles-mêmes les restes de leurs proches disparus. C'est un reportage de Marine Lebeg.
Machette et pioche en main, une trentaine de bénévoles s'alignent à l'entrée de Larusco, une forêt de pins au sud de Mexico City.
On va commencer cette journée de recherche en invoquant la divinité chercheuse qui marche à nos côtés. Que la lumière de ceux que nous cherchons illumine le chemin jusqu'à ce que nous les trouvions et nous les ramenions à la maison.
Parmi eux, Esteban Gallardo, vêtu d'un t-shirt où apparaît une photo de sa sœur Pamela, disparue à l'âge de 23 ans.
Aujourd'hui, on fait une nouvelle journée de recherche afin de comprendre ce qu'il s'est passé et trouver un indice. Elle a disparu il y a 7 ans, justement ici, et nous n'avions pas encore eu l'opportunité de chercher dans cette zone précise de Larusco.
À ses côtés, sa cousine donne les dernières directives aux bénévoles.
On va chercher des ossements. Si vous trouvez des vêtements, des bouteilles d'alcool vide, etc., concentrez-vous sur cet endroit, car c'est probablement là où ils sont restés un moment et où ils ont pu tuer.
Les recherches vont durer 4 jours. La famille de Pamela, accompagnée de bénévoles, de pompiers et d'anthropologues, vont passer cette partie de la forêt au peigne fin. Cette fois-ci, des membres du parquet spécialisé contre les disparitions forcées se sont joints à eux. Mais Esteban Gallardo, comme les autres familles de disparus, ne leur font plus confiance.
Au-delà de me sentir abandonné et invisible, je me sens frustré. Ça me frustre de savoir que le parquet aurait déjà pu retrouver ma sœur et d'autres personnes avec toutes les informations et tous les éléments que les familles elles-mêmes trouvent et leur donnent.
À quelques mètres de là, l'un des bénévoles met la main sur un os. L'anthropologue s'approche.
C'est animal. On le voit à l'épaisseur, c'est un os animal.
Fausse alerte. Les recherches continuent. Il ne faut oublier aucun recoin du secteur désigné aujourd'hui, car demain, ce sera une autre zone de cette forêt de 1000 hectares qui sera fouillée. Une quête sans fin qu'Esteban continue au prix de nombreux sacrifices.
Même si on a un travail, des activités, une vie, quand ces sessions de recherche s'organisent, on arrête tout pour venir. Avoir le moindre indice sur elle, savoir dans quelles conditions elle se trouve, ça nous permettrait d'avancer vers un possible deuil. Mais ne pas savoir ce qui lui est arrivé conditionne toutes nos actions, que ce soit dans la vie personnelle, familiale ou sociale.
Une situation ambiguë que vivent les familles des plus de 120 000 personnes portées disparues au Mexique à ce jour. Après la découverte d'un camp d'extermination dans l'ouest du pays, Claudia Sheinbaum a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre les disparitions forcées, toutes jugées déjà existantes ou inutiles par les familles. Marine Lebeg, Mexico, RFI.
À suivre l'actualité en Afrique sur RFI.
Ce samedi sur RFI, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Bruno Faure.
Qu'elle soit maritime, terrestre ou aérienne, la logistique en Afrique est en plein bouleversement. Nous recevons le patron de Seva Logistics, 110 000 salariés dans le monde, un chiffre d'affaires de 19 milliards de dollars. Le continent africain est au cœur de sa stratégie.
Éco d'ici, éco d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Carrefour du Maghreb.
La poésie pour raconter l'intime et la guerre.
Juliette Rangeval.
Avec la poétesse marocaine Rim Battal et l'écrivain algérien Mohamed Kassimi, exploration des écrits d'autrices palestiniennes qui disent à travers leur corps les ravages du conflit en cours et le poids du patriarcat.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.